Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, une nouvelle édition, une nouvelle semaine de l'heure du crime sur RTL avec Perrine Suquet, Margot Agnès et aujourd'hui c'est Philippe Duval qui est aux manettes de notre émission avec à la une, vous l'avez entendu tout à l'heure peut-être avant les infos quand on en parlait avec Sophie Orange et Vincent Parisot, la vie du vrai gentleman cambrioleur, un monsieur dont le nom est certainement inconnu de la plupart d'entre vous aujourd'hui, Marius Jacob, et pourtant, il mérite vraiment et qu'on ne l'oublie pas. Alors vous allez me dire, vous allez faire l'apologie d'un voyou. Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, je crois que la vie de cet homme dépasse vraiment de très très loin les exploits, si on peut dire, d'un petit voleur. Pour en parler, j'ai choisi les deux meilleurs spécialistes de l'histoire de la police. Ça les fait rougir, mais tant pis. Charles Diaz, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Vous êtes contrôleur général de la police nationale. Bon, ça c'est votre métier. Votre jardin secret. Et vous êtes aussi connu pour ça de très nombreux lecteurs. Vous êtes historien de la police. Vous avez notamment, puisqu'on va parler de Marius Jacob, publié une partie de son histoire dans un livre qui s'intitule La nouvelle épopée des brigades du Tigre. Un livre qui est paru chez Jacob Duvernay. Et puis dans un petit instant, on ira rejoindre chez lui en Bourgogne Jean-Marc Berlière, qui est historien que vous connaissez bien, hein, évidemment, spécialiste de l'histoire des polices en France. Il est professeur honoraire à l'université de Bourgogne. Alors, on va commencer tout de suite, Charles Diaz, sans transition aucune, comme disent certains de mes confrères. Est-ce que vous considérez, est-ce que souvent, je l'ai lu d'ailleurs dans vos livres aussi, les flics parlent des beaux mecs, des beaux voyous. Mmh. Est-ce que Marius Jacob, pour vous, c'est un beau voleur?
Eh ben non. Je vais vous dire, moi quand on tresse des lauriers à des voyous, je n'aime pas en général parce qu'on cache toujours leur côté ténébreux, les sales choses qu'ils ont faites. Eh bien, Marius Jacob, c'est une exception. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est quelqu'un de droit, qui a du panache, c'est quelqu'un de très franc. Et finalement, c'est une exception dans le monde des voyous, et je vais même aller plus loin. Tout son comportement prouve que c'est un homme de valeur. Il aurait pu faire n'importe quoi dans la vie, il aurait pu réussir dans tas d'autres domaines, et toujours, dans les pires circonstances, il a maintenu sa ligne. Je veux dire que...
On ne tue pas.
Il est révolté, il ne tue pas. Il devient riche à un moment donné grâce à ses cambriolages et il continue de penser aux camarades et à envoyer de l'argent. Et enfin, il est arrêté, il passe devant la cour d'assises et il prend tout sur lui. Il assume. Et donc c'est quand même un personnage et il a du panache.
Alors, il est aussi l'inventeur du coup du parapluie. On a vu ça au cinéma, mais dans la période contemporaine, c'est lui qui a inventé. Vous pouvez nous rappeler en deux mots. Alors, le coup du parapluie, c'est génial.
Mais il cherchait tout ce qui pouvait améliorer son travail de cambrioleur. Alors par exemple, il se faisait livrer des coffres-forts pour apprendre les mécanismes de ces coffres.
Il avait même acheté pour ça une quincaillerie.
Une quincaillerie son nom, tout à fait. Et puis alors, le coup du parapluie, c'est simple. Il détectait un appartement à cambrioler et il ne pouvait passer que par le plafond. Et le problème, c'est qu'il pénétrait donc dans l'appartement supérieur en l'absence de ses occupants. Là, il perçait un petit trou, donc ça ne faisait pas trop de bruit. À ce moment-là, il passait un parapluie fermé dans ce trou, il l'ouvrait.
Avec tout un système de tirettes,
exactement,
de ficelles.
Voilà. Et à partir de là, il pouvait casser suffisamment large pour pouvoir ensuite descendre dans l'appartement du dessous.
Alors voilà donc l'homme dont on va parler. Il faut dire aussi qu'il y a, au-delà du personnage, derrière ce personnage, une vraie idée de la justice sociale, de la société. Il est anarchiste, il le revendique, et ça l'accompagnera jusqu'au bout de sa vie. On va aller donc en Bourgogne rejoindre tout de suite Jean-Marc Berlière. Bonjour Jean-Marc Berlière.
Bonjour Jacques Pradel.
Merci.
Bonjour Charles Diaz.
Oui, je sais que vous êtes deux vieux complices, hein. On peut le dire là.
Oui,
c'est le moment où jamais d'en parler.
mais pas dans le domaine du cambriolage.
Alors vous parlez de Marius Jacob dans le livre, un livre qui s'intitule La naissance de la police moderne, hein, chez Perrin. Votre dernier ouvrage, c'est sur les liaisons dangereuses, c'est le terme que vous utilisez dans le titre, milicien, donc truand, résistant, Paris 1944, c'est aussi chez Perrin, c'est votre actualité. On revient à Marius Jacob, avant d'entrer dans le détail de ses exploits de voleur, de cambrioleur, avec cette fameuse bande qu'il avait appelée les travailleurs de la nuit. D'où vient-il cet homme? Parce qu'il est alsacien d'origine, mais en fait il est né à Marseille.
Oui, c'est un Marseillais, il est le fils unique, en fait il a eu des frères et des sœurs qui sont morts en bas âge, comme ça se passe hélas beaucoup à cette époque, hein. Il est né donc à Marseille, il est le fils d'un boulanger qui a beaucoup navigué d'ailleurs, qui a travaillé sur les paquebots des messageries maritimes, et puis qui s'est installé dans un quartier populaire de Marseille, qui doit s'appeler la Belle de Mai, pour les spécialistes et les gens de Marseille. Et c'est un milieu de, comment dire, c'est un petit artisan, hein, son père. Il a une enfance plutôt heureuse. Sa mère, qui l'a énormément soutenu tout au long de sa vie, et notamment, on en parlera tout à l'heure, pendant ses 20 ans au bagne, disait que c'était un enfant qui très calme, qui jouait à la poupée même, qui avait le côté féminin.
Jean-Marc Berlière.
Et puis, il l'a beaucoup lu aussi. Ouais. Il lit Jules Verne. Il dévore Jules Verne quand il est gamin.
Ouais, d'accord, mais enfin, un enfant calme, mais à 12 ans, il s'engage comme mousse quand même, non? Sur des bateaux.
Vous avez raison, c'est Jules Verne. Hein. Il est complètement attiré par l'aventure, par l'exotisme, par les récits qu'il a lus. Son père a navigué, et donc à 11 ans, il passe un certificat d'études très médiocre. Il déteste l'école, et il la quitte, et il s'engage, vous avez raison, comme mousse. Et pendant 5 ans, il a été aussi apprenti timonier. Il va naviguer sur toutes les mers du monde. C'est impressionnant. Hein,
il va aller jusqu'en Australie. Hein,
il est allé au-delà. Il a notamment travaillé sur un paquebot qui faisait la ligne Marseille-Nouméa. Et vous imaginez le voyage, plusieurs mois, et passant effectivement par l'Australie. On le trouve aussi sur un baleinier pirate. Il assiste à des attaques, à des massacres d'équipage. Enfin, c'est complètement fou. Hein. Alors, à son procès en 1905, il dira « J'ai vu le monde ». Et il n'était pas beau. Ça l'a beaucoup marqué, hein, cette expérience.
Alors, je reviens à vous tout à l'heure, mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui accompagne toute la vie de Marius Jacob, que j'ai découvert en travaillant pour cette émission, c'est-à-dire en lisant vos livres, messieurs, notamment, et en regardant aussi un certain nombre d'articles de journaux de l'époque, comme celui du Figaro, parce que c'est d'où ma question, Charles Diaz, tout à l'heure, un beau voleur, parce que l'article du Figaro, le jour de l'ouverture du procès d'assises disait il y a bien longtemps, je cite là, il y a bien longtemps qu'on avait vu aux assises un beau voleur, un voleur de métier, ayant la fierté de son art comme un orgueil professionnel. Et j'ajoute que ce qui l'a accompagné toute sa vie, c'est aussi l'humour. Alors, et l'humour est ce qu'on pourrait appeler le cambriolage canular. Vous pouvez, par exemple, je pense à son premier grand coup.
Son coup d'État. Hein, oui.
Il a 20 ans. Hein.
Oui. On est en 1899 à Marseille, et là, il y a le monde piété, hein, comme ailleurs, où les prêteurs sur gage sont à la disposition du public, et là un beau matin se présentent trois hommes. L'un se présente comme étant un commissaire de la préfecture de police et accompagné de deux inspecteurs, et disent au commissionnaire: vous êtes suspecté de recel d'une montre volée. Alors, nous allons perquisitionner, nous allons vous entendre. Et il s'installe. Et ça va durer trois heures. Pendant trois heures. C'est trois faux policiers, hein, Marius Jacob.
Ils ont une machine à écrire, ils ont du papier en tête de la préfecture de police.
Voilà. À l'époque, on fait pas ça, c'est rare, les machines à écrire.
Il n'y a pas encore de machine à écrire.
Le papier est bien à l'entête de la préfecture de police.
C'est génial.
Et pendant ce temps-là, ces deux inspecteurs, naturellement, vont dans les réserves à l'arrière du bureau du commissionnaire et s'emparent de tout ce qui a de la valeur. Voilà. Ils mettent tout ça dans des sacs.
Ouais, mais ils font la liste. Hein,
mais tout est très sérieux.
On vous rendra ça plus tard.
Tout est très sérieusement fait.
Pièce à conviction.
Ils sortent de là, ils le menottent, naturellement. Hein, un suspect ne peut pas marcher libre dans la rue. Ils vont tranquillement, il y a plus de 300 mètres, jusqu'au palais de justice. Et là, ils l'installent sur un banc en bois, là où on s'installe dans la salle des pas perdus, et ils lui disent de l'attendre là, et ils empruntent un escalier comme s'il entrait, ils entraient vers les bureaux des juges d'instruction, et ils disparaissent.
D'accord.
Et alors, ça fait rire la France tout entière.
Évidemment, oui.
400 000 francs.
De l'époque, ouais, c'est beaucoup d'argent.
Ça correspond énorme, à peu près à 100 ans du travail d'un employé de bureau.
D'accord. Donc ça montre quand même à la fois le panache, l'astuce, l'humour, hein, il faut bien le dire, parce que fallait que c'est un vrai scénario de film comique, mais c'est la réalité. Voilà le personnage dont on va vous parler, Marius Jacob. On va retrouver Jean-Marc Berlière et Charles Diaz tout au long de cette émission pour vous raconter la vie, mais j'allais dire pratiquement chronologiquement, parce que c'est très intéressant de voir sa montée en puissance. Là, dans un instant, on va parler de la fameuse bande qu'il avait aussi nommée avec beaucoup d'humour, les travailleurs de la nuit. Qu'est-ce qu'ils faisaient la nuit? Ben, ils braquaient évidemment les appartements, mais ils ne faisaient pas que ça. On y revient dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
La vie du véritable gentleman cambrioleur à la une de l'heure du crime aujourd'hui. Cet homme s'appelait Marius Jacob. Il est né en 1879. Il a fait 20 ans de bagne. Il a passé toute la guerre en France. Il est mort en 1954 à l'âge de 74 ans, en laissant un mot sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que on verra que l'humour, y compris l'humour noir, ne l'avait pas quitté de toute sa vie. On en parle avec mes invités, Charles Diaz, que vous avez entendu il y a un instant parler du coup du parapluie. Il y a de quoi, évidemment, en tant que policier, à la fois, comment dire, j'allais dire que quand vous saluez le coup du parapluie, ça a quand même un peu de panache, hein, venant d'un policier quand
c'est
même.
C'est des pros,
hein.
Bon. Quoi, ouais.
Alors, Charles Diaz, lui, contrôleur général de la police nationale et historien, bien sûr, de la police. C'est Jean-Marc Berlière qu'on rejoint maintenant, et historien, spécialiste de l'histoire des polices en France, professeur à l'université de Bourgogne. Je voudrais revenir à vous, Jean-Marc Berlière, parce que il est rentré, donc il n'a pas voulu devenir pirate. Ça lui plaisait pas, ou c'était trop violent, parce que la non-violence, finalement, ou cette espèce de comment dire, de banditisme pacifique va l'accompagner tout au long de sa vie, non?
Oui, je crois qu'il y a une dimension d'Alexandre Jacob dont on n'a pas encore parlé et qui est essentielle pour comprendre le personnage.
Alors vous dites Alexandre, pardonnez-moi.
Oui, il s'appelle Alexandre.
Parce que moi j'ai dit Marius depuis le début volontairement, mais il y a une raison à ça, vous allez nous la dire tout de suite.
Oui, son vrai prénom est Alexandre Jacob, mais son surnom est Marius, et dans la deuxième partie de sa vie, quand il a été libéré du bagne et puis de la prison qui l'a suivi, il est devenu marchand forain sur les marchés,
ouais.
Et l'enseigne de son étal était chez Marius.
Voilà, et parce que c'était ça consommait moins de peinture pour écrire Marius que Alexandre.
Pas du tout. Bon, j'ai
vu ça quelque part.
Et à son accent marseillais.
D'accord. Alors dites-moi.
Il y a une dimension dont on ne peut pas oublier l'existence, parce qu'autrement on ne comprend rien à Marius Jacob, c'est que c'est un anarchiste. Et de ce point de vue, il pratique donc ce que Charles Diaz saluait. C'est quelqu'un qui a fait des coups énormes, hein, qui aurait pu gagner, qui a dérobé des millions, mais qui est toujours n'est jamais sorti de la modestie de sa vie quotidienne, qui mangeait dans un bouillon, comme on disait, on appelait les restaurants populaires, qui a toujours habité des petites chambres de bonne, etc., qui réinvestissait ses prêts dans l'affaire, dans le matériel et tout, on en parlera. Mais vole les riches parce qu'ils pensent, et ça, on ne comprend rien à Jacob si on oublie ça, que les riches, pour devenir riches, volent les autres, les travailleurs, les pauvres, etc. Et donc, il est un adepte de ce qu'on appelle à l'époque la reprise individuelle, qui est un des aspects de la théorie anarchiste. On vole les riches pour redistribuer cet argent aux pauvres.
Et il le faisait, lui, véritablement.
Ah, il l'a fait véritablement, mmh. Et c'est très intéressant, vous qui êtes friand de cette littérature de l'époque, il y a un personnage de fiction, certes, qui s'appelle Georges Randall, qu'a créé un écrivain qui s'appelle Georges Darien, en réalité il s'appelait Adrien, et ce Georges Darien écrit un livre, à la même époque, hein, qui s'appelle Le Voleur. Ouais. Donc Claude Chabrol, si je ne m'abuse, a fait un film,
chef-d'œuvre,
avec Jean-Paul Belmondo, qui pratique justement, Randall est, enfin, n'est pas Marius Jacob, bien sûr, hein, il y a la différence entre la fiction et la réalité, mais on est dans une mouvance, si vous voulez, qui est terriblement importante, et il faut bien comprendre que Jacob est devenu voleur parce que il a été arrêté tout jeune, hein, il avait 17 ans, à la suite sans doute de ce qu'on peut appeler une provocation policière, Charles Dias me pardonnera. Il a été accusé et il possédait certainement une brochure permettant, expliquant comment fabriquer des explosifs. On est en plein dans la période anarchiste, vous savez, Ravachol, Caserio, etc. Et à partir de là, il n'arrivera plus jamais à travailler honnêtement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il travaille, on le dénonce, la police le dénonce comme anarchiste.
Il est poursuivi.
Et donc, puisqu'on ne me permet pas de gagner ma vie honnêtement, je la gagnerai comme voleur.
Je reviens à vous le temps de vérifier avec Charles Dias.
Ah, mais c'est tout à fait vrai.
C'est la mauvaise réputation.
On est à une époque où la police spéciale des chemins de fer, cette fameuse police politique de l'époque, veut contrer l'anarchie qui est très mouvante et qui terrorise. Hein. Il y a quand même Ravachol fait exploser des édifices, Auguste Vaillant met une bombe à l'Assemblée
nationale.
Et alors naturellement ces policiers spéciaux, ils montent des coups. Donc ils cherchent
un peu comme les coups d'achat des gens des stupes maintenant, où ils se font prendre pour des acheteurs de drogue pour mieux confondre.
Exactement. Alors le milieu typographe dans lequel travaille Alexandre Jacob à l'époque, c'est un milieu anarchiste. Tout le monde le sait. Il suffit que vous envoyez un provocateur qui vous donnez à Alexandre Jacob un bouquin dans lequel on explique comment
on fabrique une bombe.
Et puis le lendemain vous l'arrêtez avec.
Voilà, et l'affaire est faite. Alors on va faire une nouvelle pause dans cette émission. Juste quand même, je résiste pas à... Dans un instant, on va vraiment parler avec Jean-Marc Berlière des travailleurs de l'ennemi. Mais je résiste pas, encore une fois, toujours l'humour de Marius Jacob. Le 3 juillet 1899, il est arrêté à Toulon. Il risque 5 ans de prison. Et pour éviter la prison, il va simuler la folie. Alors, pour être sûr qu'on le prend pour fou, il prétend au psychiatre ou au médecin qu'il examine, il prétend qu'il a des hallucinations dans lesquelles il est agressé par des jésuites. En fait, il s'évadera un an plus tard avec la complicité d'un infirmier de l'asile d'Aix-en-Provence et il va se réfugier toujours dans sa région du côté de Sète. Voilà le personnage dont on parle. Vous pouvez évidemment, si vous avez des questions, des réactions, des témoignages, nous contacter sur le 3210 pour les coups de téléphone ou nous envoyer des courriels sur rtl.fr.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Berlière, qui est en ligne depuis sa Bourgogne, et Charles Dias, qui est avec moi ici dans le studio RTL du 22 rue Bayard, pour parler de ce personnage vraiment fascinant, qui s'appelle Marius Jacob, Alexandre Marius Jacob. Et on vous raconte son histoire avec ces deux spécialistes donc de l'histoire de la police. Je parlais d'humour tout à l'heure, Jean-Marc Berlière, il y avait encore une chose d'ailleurs, on parle évidemment du fait de savoir si vraiment Maurice Leblanc s'est inspiré totalement de Marius Jacob pour faire son personnage d'Arsène Lupin, mais comme Arsène Lupin sur les lieux de ses cambriolages, Jean-Marc Berlière, il laisse souvent une carte de visite signée Attila.
Absolument, des mots assez vengeurs, un petit peu puérils, hein. Sale aristo, sale bourgeois.
J'ai retrouvé une très belle mention qui date du 14 février 1901. Il y a un cambriolage dans l'église Saint-Sever à Rouen. Et il laisse donc sa carte à Tila. Il y a marqué « Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres ».
Oui, absolument. Ça, il faut dire qu'il s'était fait une spécialité. Il est très anticlérical. Il vole beaucoup, beaucoup les églises, le clé. bergers, les hommes d'église. Ouais. Et ils se régalent dans ce domaine.
Alors, dites-moi, parlons des travailleurs de la nuit, parce qu'il va appeler sa bande comme ça, et ils vont bientôt quitter, évidemment, le sud de la France et s'aimer un petit peu partout en France. C'est des centaines et des centaines de cambriolages, hein?
Alors écoutez, à son la bande des travailleurs de la nuit a été créée en 1900. Hein. Ouais. Jacob tombe, comme on dit dans le milieu, à Abbeville le 22 avril 1903. Donc en un peu plus de 3 ans maximum, ou en un peu moins de 3 ans maximum, il sera jugé à Amiens en 1905 pour 156 affaires dénombrées, précises, ouais, etc.
Et avoué.
Alors, ouais, et avoué, et revendiqué comme tel, ouais, hein, il ne se cache jamais. Mais il existe, j'avais écrit sur Alexandre Jacob en 1989 un article paru dans l'Histoire qui a suscité peut-être des vocations de cambrioleur, j'espère que non, mais en tout cas, une vocation d'historien. Ouais. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Delpech a soutenu une thèse dans le jury de laquelle je figurais, ouais, sur Marius Jacob, et lui qui a travaillé au petit point, si j'ose dire, au microscope, ouais, il attribue à la bande des travailleurs de la nuit 310 forfaits en un peu moins de 3 ans. Ça fait, vous imaginez, plusieurs par semaine.
Ouais. Alors dites-moi, on n'a pas encore les brigades du Tigre là en 1901. Hein?
Ah non, c'est, ouais, d'ailleurs ça qui va permettre, ouais, à Alexandre Jacob, qui est un type extrêmement malin. Enfin, je voudrais pas qu'on ait l'air de faire l'apologie.
On l'assume aujourd'hui.
Il est tellement fascinant.
Ouais, ouais.
Il utilise à fond la désorganisation, si j'ose dire, policière de l'époque, c'est-à-dire, ouais, une poussière de police municipale, comme celle de Marseille, celle de Sète, Narbonne, Amiens, Abbeville, etc., dont le ressort est strictement limité, vous imaginez, au territoire municipal, ouais, et sans droit de suite. C'est-à-dire que Jacob travaille avec un indicateur des chemins de fer, il prévoit toujours son arrivée, son départ le lendemain, ils travaillent la nuit bien sûr, ils arrivent le soir du forfait, ouais, ils partent le lendemain matin,
voilà,
et
ouais,
avant même d'ailleurs que le forfait soit, ouais, découvert, ouais, ils sont rapidement ouais, à l'abri.
À ce propos, un mot de Charles Diaz, c'est ce qui a créé, finalement, ce qui a permis de créer ou donner le...
Oui, en tout cas, c'est
la police,
un des exemples qui va amener Célestin Aignon et Clémenceau, voilà, à imaginer et à mettre en place ces brigades du Tigre. Ouais. Alors il faut savoir que la bande de Jacob s'est installé où ça, au meilleur endroit en France pour profiter des chemins de fer, Paris.
Évidemment.
Ils sont installés à Paris et, ouais, c'est depuis Paris qu'ils partent. Une fois que leur cible a été localisée, ouais, ils prennent les chemins de fer tranquillement avec, ouais, 3 valises vides, mmh, qui vont revenir pleines.
Pleines. Il y a combien, Jean-Marc Berlier, on sait combien il y avait de gens dans les travailleurs de la nuit, là?
Ah, c'était un personnel très variable, si j'ose dire, ouais, avec un turnover impressionnant. Il faut quand même imaginer, hein, on a un petit peu brodé là autour. L'un des problèmes pour faire l'histoire d'Alexandre Jacob, c'est, si vous voulez, tout le mythe, hein, tous les fantasmes qui l'entourent, ouais, et des biographes qui n'ont pas été, soyons polis, extrêmement précis dans, ouais, leurs, ouais, recherches.
Donc on a créé une légende là où il n'y avait pas besoin. Hein.
Ouais. Ouais, mais c'est plusieurs dizaines de personnes, mmh, et on trouve de tout, hein, là-dedans. D'abord des femmes aussi, hein, des hommes, ouais, et des femmes, mais également de purs anarchistes, ouais, c'est-à-dire qui, mmh, travaillent pour la cause, ouais, et puis des gens qui sont de purs malfrats, ouais, qui s'agrègent à une bande qui est terriblement efficace et dont je pense que vos auditeurs et vous-même souhaiteriez qu'on explique un petit peu le fonctionnement, ouais, parce que c'est on entre là de plein pied dans une modernité impressionnante, même si l'ordinateur n'existait pas.
Ouais.
Alors, comme l'a dit Charles, ils partent souvent de Paris, où d'ailleurs Alexandre Jacob a une couverture, hein, sous le nom de Joseph Escande. Il tient un magasin d'antiquités, ouais, et il a une autre couverture dont vous avez parlé tout à l'heure, à Montpellier. Mmh. Il possède une quincaillerie, ouais, Faubourg du Courreau, où il se fait livrer les dernières versions des coffres-forts de marque que nous connaissons bien.
Pour apprendre à les ouvrir, ouais.
Et qui multiplie longuement, ouais, pour pouvoir les ouvrir. Absolument. Il invente des outils extraordinaires. Ouais. Il en fait une valise dont chaque équipe, parce que les travailleurs de la nuit travaillent par équipe de le 3, et doit se munir, ouais. Et ces équipes font ce qu'ils appellent des tournées. Alors, d'accord. Une tournée est préparée par des reconnaissances, notamment dans les villes de villégiature, on repère les maisons, ouais. Qui ont l'air de jamais être ouvertes, des sortes ouais. de résidences ouais. secondaires, de vacances, etc. Ouais. On y met un petit mouchard dans la porte pour vérifier ouais. si la porte a été ouverte.
Ah oui, un petit bout de papier blanc voilà, qui revient le lendemain.
Oui, ouais, blanc, je ne sais pas. Et ouais. puis, on intervient, donc, trois, une équipe pendant la nuit. Ouais. On ouais. visite les différentes maisons et celles dont les mouchards sont intacts sont évidemment ouais. complètement ouais. cambriolées. Ouais. Alors, avec des choses, on en a parlé, ça paraît alors là mythique, mais c'est vrai. Un guetteur, bien sûr, dans la rue. Ouais. Et Jacob va mettre au point une technique complètement originale et écolo, soyons clairs. Il utilise un crapaud qu'il achète ou qu'il récupère oui. et qu'il met dans un, vous savez, sur le trottoir, dans une gouttière. Ouais. Et quand le crapaud qui coasse cesse de coasser, ça veut dire que quelqu'un passe dans la rue. Ah. Et à ce moment-là, la bande arrête, évidemment, tout
c'est
travail.
C'est génial, ça vaut les oies du capital, ouais, absolument. Alors, il y a une chose quand même, je reviens là deux secondes à Charles Diaz, ici, dans le studio de la rue Bayard. Un jour, il cambriole une maison, et en fait, cette maison appartient à un certain Julien Viaud, un capitaine de frégate, et il va s'apercevoir, en cambriolant, que, en fait, Julien Viaud n'est autre que Pierre Loti.
Pour lequel il a une grande admiration, et il va lui laisser un mot pour s'excuser, et il laisse de l'argent correspondant à la vitre brisée.
Et j'ai sous les yeux ce mot, ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vide sa plume. Tout travail mérite salaire, et c'est signé Attila, avec un post-scriptum, effectivement, comme vous le disiez, Charles Diaz, 6 juin, 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. Voilà, donc on est toujours dans cette atmosphère. Alors, on reviendra à Jean-Marc Berlier tout à l'heure, mais je voudrais que, là, parce que je voudrais qu'on ait le temps de parler aussi du bagne, qui a été quand même, il y a passé de 1905 à quasiment 20 ans de prison. Je voudrais simplement, on va parler de cette arrestation, donc de 1903, Charles Diaz, ça se passe à Abbeville, et là, ça se passe mal, hein. Oui. C'est rien un drame, hein, quand
ah
même.
Bah, hein. Oui, il y a un policier qui intervient et un des complices de Jacob, hein, qui s'appelle Bourg, sort
ce policier,
et tire sur le policier ouais. pour qu'il puisse s'enfuir, hein, parce que bon, les choses sont ouais. claires. Là, ouais. Et donc le policier meurt.
Voilà, il y a un autre policier qui est grièvement blessé. Voilà. Donc là, bon, ils s'enfuient, mais ils vont être rattrapés. Voilà.
Alors il y en a un qui est arrêté immédiatement, hein, et à partir de là, ils vont remonter toute la bande. Ouais. Jacob s'enfuit, il va se réfugier d'ailleurs à Marseille, où il est arrêté, ouais. Au mois de juillet. Ouais. Et à partir de là, toute la bande, il y aura 29 accusés, hein, 23 vont comparaître devant la cour d'assises d'Amiens et les autres sont en fuite.
Ouais. Alors, ce procès, ça va devenir, effectivement, je vous ai cité quelques lignes du Figaro à un moment, mais au début, personne connaît Marius Jacob, on sait pas qui c'est. Il y a quelques journalistes, parce oui. que c'est leur métier, c'est les chroniqueurs judiciaires, ils s'y vont, mais quand leurs confrères lisent oui. ce qu'ils écrivent, ils se disent, mais qui est ce bonhomme? Alors, oui. comment il se comporte dans ce procès?
En fait, ce qui se passe d'abord, c'est qu'on veut vraiment mettre l'accent sur le mauvais côté de cette bande. Et donc, dans le premier article que publie l'Aurore, le jour même de l'ouverture du procès, on dit par exemple qu'ils ont tué une vieille femme en la chloroformant et qu'elle est morte étouffée. Mm-hmm. Ce qui finalement n'est pas de leur fait. C'est pas une affaire de leur bande.
On charge la barque, on va dire. Quoi.
On charge, ouais. on les noircit. Mm-hmm. Et puis, Jacob n'a pas encore parlé. Parce qu'il va se servir, et c'est extraordinaire. Imaginez-le, il est là, il a un veston assez peuple, ouais. il a un petit chapeau rond qu'il refuse d'enlever devant le président. Ouais. Le président insiste, ouais. non, pour lui.
Ni Dieu ni maître.
Voilà, il refuse de l'enlever, et puis, il se sert de la tribune, du tribunal, comme une tribune. D'accord. Et pour faire le procès de la société. Et à chaque instant, et d'ailleurs, au bout du quatrième jour, le président va l'expulser. Lui et deux autres membres de la bande seront expulsés. Au début, il y a deux journalistes dans la salle. Un journaliste local et un journaliste qui est venu de Brest, je crois. Et puis alors, petit à petit, à chaque fois, ses saillies, ses mots d'humour, etc. Et puis, il faut le dire aussi, hein, le formidable butin de cette bande, ses coups, la façon qu'il a aussi de se moquer des victimes, on reviendra là-dessus, fait que, tout d'un coup, il y a un véritable engouement pour ce personnage, et à la fin du procès, il y a plus de 20 journalistes nationaux dans la salle.
D'un mot, comment il se comporte avec les témoins? Alors, des gens qui viennent témoigner en disant
déjà, vous disiez tout à l'heure par rapport au curé, il rappelle simplement au curé de l'église en question qu'il n'a pas fait que voler des candélabres, etc. Il a aussi volé des petits tableaux grivois qui étaient cachés dans un placard. À un autre qui lui dit, mais vous m'avez volé un mouchoir à 200 francs, il répond, c'est une insulte à la misère, monsieur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est cet homme aussi qui a déclaré, parce qu'il y a aussi des victimes qui ont exagéré pour profiter des assurances, à cet homme qui déclare qu'on lui a volé 20 kilos d'argent, et Marius Jacob lui dit, bon, à la refonte, moi j'en ai compté que 16 de kilos. Et donc, il est comme ça sans arrêt. Et il tient son public. Il tient son public. Il y a des gens dans la salle qui crient « Salut, bonjour Marius !» Enfin, il y a vraiment une...
Un engouement autour du personnage, évidemment. Alors, comme il n'est pas accusé de meurtre, il va échapper à la guillotine, il va être condamné à mort, à perpétuité, au bagne de Cayenne. Et là vont s'ouvrir 20 ans incroyables avec 17 tentatives d'évasion. Et c'est ce qu'on va vous raconter dans un instant avec Jean-Marc Berlière et Charles Diaz.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors, au tout début de l'émission, Jean-Marc Berlière, vous nous disiez que cet homme avait eu un lien affectif extrêmement fort avec sa mère, et que tout cela s'était d'ailleurs révélé au cours de ces années de bagne à Cayenne, parce que je crois que, les prisonniers étaient autorisés à écrire, à recevoir du courrier, mais il s'exprimait dans une correspondance avec sa mère en langage codé, c'est ça?
Oui, partiellement et effectivement, mais surtout quand on lit cette abondante correspondance, on est quand même frappé par la proximité entre ces deux êtres, et puis on est touché quand même par ce que laisse percevoir, il y a une censure hein, bien sûr du courrier, Jacob, de la condition des bagnards. Hein. Il a quitté la France donc pour la Guyane en novembre 1905, hein, il arrive le 6 janvier 1906 aux îles du Salut. Il faut rappeler, je crois, aux auditeurs que le bagne était surnommé la guillotine sèche, hein, que l'espérance de vie d'un bagnard était de l'ordre de moins d'un an. Et non seulement il va résister 20 ans, mais comme vous l'avez rappelé, il va sans cesse tenter de s'évader. Une partie d'ailleurs de ce qu'il a vécu a servi aux inventions, hein, c'est attrapé tout ça, de charrière absolument. Et sa mère ne va cesser d'intervenir auprès des journalistes, auprès de l'opinion, auprès des hommes politiques, pour essayer d'obtenir la libération de son fils. Elle va intéresser au sort de son fils quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans la suppression du bagne, un jeune journaliste qui s'appelait Albert Londres, et Jacob va réussir 20 ans plus tard, comme vous le disiez, en 1925, à être rapatrié en France, et là faire quelques années de prison, puisque sa peine avait été commuée,
des
travaux
forcés
à la prison.
Il va encore faire 2 ans. Donc ce passage, Charles Diaz, pour vous, qui avait raconté également l'histoire de Marius Jacob, est-ce qu'il compte continue à avoir ses idées et son idéologie et ses idées anarchistes.
Est-ce qu'il perdu,
correspond avec des anarchistes depuis le bagne de Cayenne?
Et il le restera en sortant et il continuera. Il est bon. Là, on peut plus. C'est plus l'anarchie de la fin du 19e. Là, on est plutôt dans ce que j'appellerais le mouvement libertaire plutôt. Ouais. Mais il a les mêmes idées. Il a les mêmes convictions. Il déteste ceux qui profitent des petites gens.
En fait, il n'a jamais baissé les bras.
C'est Don Quichotte, cet homme. Ouais.
Et quand il s'évade, parce qu'il s'évade, Jean-Marc Berlière le disait 17 fois, il est repris. Ça veut dire quand même la sanction. C'est 11 ans de cellule. Exactement. Sur toutes ces années de bagne. Hein, c'est ça, Jean-Marc Berlière.
Oui, il est envoyé aux îles du Salut, qui sont le Bagne du Bagne, hein, un petit peu l'équivalent des quartiers de haute sécurité plus tard, ou le mitard dans les prisons. Et bon, tout le monde connaît ou tout le monde a vu le livre de Papillon ou le film. Hein, ces cellules, vous savez, dans un silence absolu, l'obscurité, où on reste des mois et dont on sort quasi fou et aveugle.
Ouais. Alors, à l'instant, Charles Diaz nous confirmait qu'il n'avait jamais varié effectivement dans ses idées politique et sociale. Donc, il purge sa peine, il finit de purger sa peine en France, 1927. Deux ans plus tard, en 29, il va dans les locaux du journal Le Libertaire, et là, il va faire une rencontre importante pour la suite, en fait, du mouvement anarchiste. Il rencontre Louis Lecoing, qui dirige ce journal Le Libertaire. Hein.
Oui, il a d'ailleurs fréquenté avant son arrestation au début du siècle des grandes figures de l'anarchisme.
Oui.
Et on dit, bien sûr, on n'a pas eu de preuves, parce qu'autrement ça aurait été très grave pour ses journaux, mais qu'une grande partie de son butin a servi à financer presses et les imprimeries d'un certain nombre de ses journaux.
Alors, il va se battre avec eux pour les objecteurs de conscience. Il va y avoir l'affaire Sacco et Vanzetti, là on n'a pas le temps de développer, mais c'est important, là il met toute sa force pour empêcher aussi l'extradition de personnes incarcérées en France qui vont être extradées en Espagne, puis il y a la guerre d'Espagne qui arrive, 1936.
Oui, pour la cause de laquelle il éprouve une grande sympathie, évidemment, notamment à cause du rôle qu'ils jouent les anarchistes, la fédération anarchiste espagnole que Charles Diaz connaît mieux que moi, mais si vous voulez, dans tout ça, moi, ce qui m'a frappé, hein, on en a beaucoup parlé au moment de la soutenance de la thèse que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en revanche, au moment de la guerre et de l'occupation, Jacob disparaît, ne prend pas parti, on ne le voit ni prendre parti pour la résistance, ni contre, hein. Il reste l'anarchiste en dehors de ces combats qui, lui, il ne semble pas avoir perçu dans le nazisme quelque chose extraordinairement grave. C'est très surprenant. C'est d'autant plus surprenant qu'à cause de son patronyme, beaucoup de gens l'ont accusé d'être juif.
Bien sûr. Oui.
Moi, je pense que c'était un homme fatigué.
Oui.
Je pense que c'était un homme fatigué qui voulait défendre un certain nombre d'idéaux, mais de là à s'engager quand on a vécu ce qu'il a vécu, et parce que plus de 20 ans de bagne, quand on dépasse les 60 ans, il ne devait pas être dans une grande forme.
Alors on va faire maintenant un arrêt sur image, si j'ose dire, un peu une chanson d'ailleurs, et puis ensuite on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission, parler de évidemment un événement qui va beaucoup le bouleverser. C'est la mort de sa mère pendant la guerre en 1941, de sa femme aussi. On n'a pas parlé de ses relations avec les femmes. On va le faire dans un petit instant. Et puis après, c'est cette vieillesse entourée d'amis, de camarades, avec des discussions interminables. Et puis cette sortie avec un panache incroyable en 1954. Il décide de mettre fin à ses jours et il laisse un mot dont on vous lira le contenu tout à l'heure.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Avec Jean-Marc Berlier et Charles Diaz, on vous raconte la véritable histoire du vrai Arsène Lupin, donc Marius Jacob. On va aller retrouver Jean-Marc Berlier dans un tout petit instant parce que il va nous parler de la période de la libération après la guerre justement. Mais d'abord un mot, Charles Diaz, sur ces femmes, parce que contrairement à Arsène Lupin, parce que j'ai lu que les éditeurs d'Arsène Lupin ne voulaient absolument pas de Maurice Leblanc, voulaient absolument pas qu'Arsène Lupin ait des aventures amoureuse, hein, parce que c'était pour tout public, mais lui, il en a eu quand même.
Il était quand même très vite attaché à une femme qui était Rose. Rose, c'était son amour. Et d'ailleurs, il se fâche au moment de la comparution en cour d'assises à Amiens, parce que le président dit « Eh bien, maintenant, nous allons aborder les maîtresses de Monsieur Jacob ». Et là, il dit, mais monsieur le président, vous allez parler de mon sérail, sans doute. Enfin, il se moque de lui, quoi. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que l'on entache la figure de Rose. Et Rose, il ne vivra pas beaucoup avec elle, puisque elle meurt pendant qu'il est à Cayenne. Et donc, à son retour du bagne. En 1936, il va s'installer dans l'Indre avec son nouvel amour qui s'appelle Paulette, avec laquelle il se marie, ce qui est quand même rare, faut le souligner, hein. Donc c'est l'âge sans doute, mais il se marie en 1939, je crois, avec Paulette.
Et cette femme va mourir en 1941, comme je le disais. D'ailleurs, un certain nombre d'auditeurs nous passent des petits coups de fil au 3210 en disant c'est pour ça qu'il y a un musée Marius Jacob dans l'Indre. On trace ça sur rtl.fr, et c'est vrai qu'il a habité, nous dit une autre auditrice, Françoise, qui vient de nous appeler, il a habité Reuilly. Donc,
tout à fait, c'est là où il s'est marié.
Voilà. Et elle nous dit, Françoise, que les gens des habitants avaient l'image d'un homme modeste et sans histoire. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire simplement pour le public, c'est qu'il était bel homme. Moi, j'ai retrouvé sa fiche anthropométrique. Il n'était pas très grand, hein, mais dans la moyenne de l'époque, 1m67, très râblé, et surtout, il a un visage très fin. C'est un bel homme. Alors, on comprend les conquêtes qu'il a pu faire.
Alors, maintenant, Jean-Marc Berlière, un mot sur la période de la Libération, et ensuite, avec Charles Diaz, on reviendra sur cette sortie volontaire, puisqu'il s'est donné la mort en 1954. Comment il vit la période de la Libération?
Et il y a une anecdote qui reflète tout à fait le personnage, à la fois dans sa lassitude qu'évoquait Charles Diaz à la fin de sa vie, et puis en même temps son humour, dont on a cessé de parler tout au long de cette émission. Donc il tenait un commerce en bonneterie, comme je l'ai dit, et il vivait sur les marchés comme marchand forain de bonneterie. Et à la Libération, il a reçu la visite, vous savez, de maquisards, vrais maquisards, pseudo-maquisards, vrais résistants, pseudo-résistants, peu importe, des petits jeunes qui arrivent avec des mitraillettes Sten et qui viennent évidemment saisir, s'ils en trouvent, des marchandises qui correspondraient à du marché noir, etc. Ouais. Et pendant qu'une partie de l'équipe est en train de fouiller sa maison, il y a un petit jeune qui le garde et puis qui est un peu gêné devant ce personnage qui le regarde d'un air un peu amusé, et il lui dit: vous devez nous prendre pour des bandits, hein, monsieur. Et Jacob lui répond: non, des bandits, j'en ai fréquenté beaucoup, vous ne leur ressemblez pas. c'est tout Jacob.
Et après, donc, cette maison de Reuilly va être un lieu de discussion, d'amitié, si j'ai bien compris.
Il a une véritable amitié avec notamment un couple d'instituteurs qui admirent son engagement, sa vie, etc. Ouais. Et ça sera la dernière très belle histoire qu'il va vivre, puisque portant jusqu'au bout leurs idées de partage et d'anarchie, ce couple bien décide, alors que Jacob leur annonçait qu'il allait se suicider, le mari va laisser sa femme vivre pendant un an avec Jacob. Jacob promet qu'il ne se tuera pas pendant un an, et c'est la dernière histoire d'amour de Jacob. Et cette dame, et c'était très émouvant, était présente au moment de la soutenance de la thèse sur Marius Jacob dont je parlais, qui situait Nancy, la soutenance, et on était tous un peu pétrifiés et gênés, et puis en même temps c'était quand même quelque chose de très fort, cette histoire.
Alors Charles Diaz, arrive cette date du 28 août 1954, il ne veut pas, j'ai plus les termes exacts, mais il dit que les aléas de la vieillesse ou les petits... il veut échapper à ça, quoi. Il veut choisir sa sortie.
Comme d'autres personnages, je pense notamment au socialiste Paul Lafargue avec sa femme et à d'autres, il a choisi de partir en beauté, on va dire.
Il s'injecte de la morphine.
Et puis il bloque le tirage du poêle à charbon. Ça fait pense immédiatement à Émile Zola, et il va mourir donc vraisemblablement par l'addition de tout cela. Il a laissé un mot.
Il meurt aussi avec son chien.
Avec son chien.
Il a gardé son chien.
Il s'appelle Négro. Oui.
Alors ce mot, je vais vous laisser le lire. Vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'il dit?
C'est étrange. Ça commence tout bêtement. Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cosse.
Ça veut dire j'ai la flemme de repasser, quoi.
Ouais. Excusez. Vous trouverez 2 litres de rosé à côté de la panetterie. À votre santé.
Voilà. Et c'est comme ça que celui que le cinéaste Jacques Colomba avait appelé le forçat intraitable, donc, est mort. Et maintenant, il y a encore quand même des gens qui célèbrent cette mémoire. Hein. Jean-Marc Berlière, on peut dire que Marius Jacob, oublié du grand public, ne l'est pas pour ceux et pour les idées pour lesquelles il s'est battu toute sa vie.
Absolument, il y a une sorte de, enfin, permettez-moi l'expression, de culte qui lui est rendu. Hein. Mmh. Il y a des sites internet, des éditions dont on n'a pas parlé, qui s'appellent les éditions du Somnambule, ont réédité toutes les lettres et œuvres d'Alexandre Jacob, parce qu'il a beaucoup écrit. Il a notamment échangé un courrier énorme avec Jean Métron, hein, qui écrit une thèse sur l'anarchisme. J'ai le début de la lettre, hein, si vous permettez.
Très rapidement, je veux bien, ce sera vraiment le mot de la fin.
Je vous quitte sans désespoir, le sourire aux lèvres, la paix dans le cœur. Vous êtes trop jeune pour pouvoir apprécier le plaisir qu'il y a à partir en bonne santé, en faisant la nique à toutes les infirmités qui guettent la vieillesse. Ah, elles sont toutes là, réunies, ces salopes, prêtes à me dévorer. Bien peu pour moi. J'ai vécu, je puis mourir.
Mais absolument magnifique. Bah, écoutez, on va rester sur cette phrase très forte. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marc Berlière. Je rappelle que vous parlez dans votre livre La naissance de la police moderne chez Perrin, justement de la vie extraordinaire de cet homme. Et puis pour ceux qui s'intéressent à la période plutôt de la guerre et de la résistance, Liaison dangereuse, miliciens, truands, résistants, Paris 1944 aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Charles Diaz. Et je rappelle aussi donc que chez Jacob Duvernay, la nouvelle épopée des Brigades du Tigre fait un sort évidemment particulier à ce personnage. Merci infiniment à tous les deux. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques petites secondes.